À Rencontre spirituelle aujourd'hui, il sera question de Ramana Maharshi. Ça peut surprendre bien des gens, surtout que c'est en pleine semaine de Pâques. Mais c'est un homme tellement merveilleux dont la vie a été publiée par les Dominicains aux éditions du Cerf dans leur belle collection Témoins spirituels d'aujourd'hui. Sous le titre de Présence de Ramana Maharshi. Ramana Maharshi, c'est vraiment un grand sage hindou. C'est un sage de l'Inde du Sud, et la vie a été écrite par Henri Hartung. Henri Hartung a bien connu Ramana Maharshi, qui est un maître spirituel hindou chez les Tamouls, et qui a vécu vraiment sous la grâce de Dieu, car la grâce de Dieu, c'est le concile qui nous l'enseigne, pénètre les cœurs sincères, où qu'ils soient. Et cet hindou a été pénétré à la fois par les grands textes hindous comme par les grands textes chrétiens. Il est né, il a vécu, il est mort dans l'Inde du Sud, et pendant les deux dernières décennies, il s'est préparé, et il est d'ailleurs, s'est donné à Dieu très jeune, à 17 ans, et il a vécu surtout au 20e siècle, dans les cinq premières décennies. Il est mort en 1950. C'est un enfant qui ressemblait à tous les enfants. Et puis, dans cette région-là, on peut dire que les adultes vivent comme tous les adultes, tout au moins la plupart, parce qu'il y a une petite minorité qui se consacre dans ces régions-là avec régularité à des pratiques religieuses. Puis, à chaque instant, au tournant des routes, on peut voir des hommes et des femmes de temps en temps immobiles et apparemment insensibles à ce qui se passe autour d'eux. Ce sont considérés comme des sages. Et tout ça, ça rappelle aux voyageurs, aux gens qui passent, par leur présence silencieuse, là, qu'il y a une recherche intérieure et personnelle, que ça existe. Que ça existe toujours en 1998. Et ça, nous avons ça aussi, nous, quand on passe près des monastères, comme ceux qu'on a dans le centre de nos villes. À Montréal, on a peut-être guère que les carmélites, mais il y en a d'autres en province. Il y a plusieurs monastères de carmélites au Québec, plusieurs monastères de Clarisse, puis il y a, en particulier, l'abbaye Saint-Benoît-du-Lac, l'abbaye des Trappistes d'Oka, les Cisterciens de Rougemont, les Trappistines à Saint-Romuald, et plusieurs autres monastères, des Bénédictines, Mont-Laurier, à Joliette, etc. C'est quelque chose, et ça nous rappelle constamment à nous aussi qu'il y a une recherche intérieure et personnelle profonde, que ça existe. Et on peut se demander parfois comment une telle béatitude est possible, et c'est ce que font les hindous quand ils voient ça. C'est peut-être moins paradoxal de le démontrer dans la mesure où cette espèce de tranche société matérialiste, au sein de laquelle nous faisons semblant de vivre, au fond, donne des signes de plus en plus évidents qu'elle va peut-être disparaître, cette société. Elle est tellement insuffisante qu'il faut sans cesse, il me semble, faire comme on fait à Radio Ville-Marie, rappeler des réalités d'un ordre qui est tout autre. C'est ce que nous essayons de faire ici. Vous rappeler qu'il y a autre chose que ce dont on vous parle partout, dans les journaux, les revues, la télévision. Il est rare qu'on aborde les questions spirituelles profondes. Sundaram Ayar, il y a souvent des mots et des noms étranges hein, quand on parle de l'Inde. Ayar, le dernier nom, c'est celui de la caste brahmane à laquelle il appartient, le père de Ramana Maharshi. Il est donc de la caste des brahmanes, c'est très haut dans la hiérarchie des castes, qui à cette époque sont extrêmement importantes. Elles deviennent un peu moins importantes avec le temps. C'est très long en Inde de changer ça. Il est comptable, son père, de son état. Il a toujours vécu à Tiruchuzi. Et il assiste sa femme, qui a un curieux nom, à la Gamale, qui a beaucoup d'importance dans la vie de Ramana Maharshi, son fils. Alors, elle met donc au monde un second garçon. Ce Ramana Maharshi va être, j'allais dire, baptisé. Jamais de la vie, ils ne sont pas chrétiens. Mais ce sont de très bonnes personnes, très bon monde. Il s'appelle Venkataraman. Il est né, selon la concordance des calendriers, un peu après Noël. Puis il est donc mort, comme je disais, en 1950, le 14 avril. C'est l'anniversaire, un peu après le Vendredi Saint cette année-là. C'était l'année de l'année sainte, en 1950. J'étais à Rome à ce moment-là. Et je m'apprêtais à quitter Rome après la belle semaine sainte que j'y ai vécue, qui est mémorable. C'est un des plus grands moments de ma vie, que la semaine sainte de l'année sainte à Rome. C'était grandiose, toutes ces cérémonies extraordinaires. Dans un numéro du journal Le Monde, qui est daté justement de 16-17 avril 1950, dont à peine 2-3 jours après la mort de Ramana Maharshi, il y avait un entrefilet dans le journal Le Monde qui annonçait la mort du philosophe Ramana, dont la pensée a exercé une grande influence, dit le journal Le Monde, sur de nombreux intellectuels occidentaux. Nombreux, c'est peut-être exagéré. À l'âge de 17 ans, raconte le journal Le Monde, Ramana Maharshi avait renoncé au plaisir de son immense fortune. Il n'a jamais eu d'immense fortune. Comme quoi les journaux exagèrent, même Le Monde. Et il aurait renoncé au plaisir de son immense fortune, qui aurait pu lui procurer pour se consacrer à la recherche de la vérité philosophique et mener une... Puis il a tout quitté ça, n'est-ce pas, pour mener une vie ascétique. En réalité, toute l'importance spirituelle de Ramana Maharshi provient du fait non pas qu'il ait effectivement consacré sa vie à la recherche de la vérité philosophique. Ce qui fait sa grandeur, c'est qu'il l'a trouvée, cette vérité que l'on appelle philosophique dans le journal, mais qui est une grande vérité spirituelle, c'est la présence de Dieu. C'est un homme de la présence de Dieu, hors du christianisme et influencé par l'Évangile quand même. Parce que son influence... Oh, on dirait pas qu'elle a marqué de nombreux intellectuels occidentaux, je vous l'ai dit, mais simplement un petit nombre de ceux-ci, dont Jacques Maritain, le grand philosophe catholique de ce siècle, dont Le Sceau, un bénédictin qui a vécu en Inde, le père Montchanin, dont je crois vous avoir déjà parlé, qui a vécu en Inde aussi et qui est mort comme un saint. Ils ont bien connu Ramana Maharshi, ils l'ont beaucoup admiré. Le petit nombre qui en Occident ont connu et admiré Ramana Maharshi, peut-être comparé aux hommes et aux femmes du monde entier et de toutes conditions sociales qui ont été touchées un jour, en passant par là, par son regard. Et surtout, quand on pense aux foules indiennes qui se sont inclinées devant lui, comme devant la présence de Dieu, comme nous nous inclinons devant quelqu'un qui est considéré comme un saint chez nous, ça arrive, ça. C'est arrivé à travers nos siècles, ça existe dans le catholicisme. Et nous le faisons devant le pape et devant nos évêques et devant ceux qui sont remplis d'un pouvoir de service. Un pouvoir de service qui vient de l'Esprit-Saint et de Dieu, donc. Il y a tellement d'hindous qui vénèrent Ramana Maharshi encore aujourd'hui, après près de 50 ans, que c'est bon de connaître l'existence de cet homme. Pour ce qui est de son immense fortune dont parlait le journal Le Monde, il suffit de rappeler que son père était comptable, à un salaire de 2 roupies par mois. On pouvait se demander comment il faisait pour nourrir sa famille. Bien, ils n'ont jamais vécu dans l'aisance, vraiment. Ils étaient plutôt de conditions modestes, tout en étant des brahmanes. Et dans les dernières années de sa vie, il était très simple. Quoi qu'il en soit de ces inexactitudes du journal Le Monde, qui ont transmis à l'Europe et spécialement aux lecteurs français la nouvelle de la mort de Ramana Maharshi, mais Le Monde a établi un lien subtil, qu'on peut dire, entre ceux qui ont pris connaissance de cela et ce qui, semble-t-il, est une manifestation humaine contemporaine. J'appellerais ça de la toute possibilité divine, comme on dit en Inde. Dieu peut saisir une âme qui s'offre à lui, et par la grâce du Christ, qui est inconnu par ces gens-là, par la grâce du Christ qui est le roi de l'univers, eh bien, ils atteignent à ce regard qui bouleversait les gens. Il y a dans le monde un fait exact, n'est-ce pas, c'est bien l'âge de 17 ans, qu'avait Venkatraman, le futur Ramana Maharshi, quand cette expérience intérieure l'a saisi et a été à l'origine de son étonnante trajectoire spirituelle. Jusqu'à aujourd'hui, son existence, jusqu'à ce moment de 17 ans, là, son existence s'est déroulée normalement, hein, dans une famille hindoue de la fin du 19e siècle. Le père était devenu, heureusement, avocat plaidant, faisait un peu plus d'argent, et il passe de longs moments, après ses heures de travail, à rédiger des lettres de pétition de ceux qui s'adressent à lui, puis il meurt en 1890. C'est dire que le pauvre petit garçon de 11 ans devient orphelin de père, et il est recueilli par son oncle paternel avec ses frères et sœurs. Ils sont obligés de se rendre à Madurai, la grande ville du centre de l'Inde du Sud. Et pendant 6 ans, notre petit garçon Venkatraman, je vous le répète, le futur Ramana Maharshi, il mène la vie habituelle d'un jeune garçon, plus porté au sport et aux activités en plein air qu'aux études. C'est petit à petit qu'il va s'ouvrir. Hein? Moi, j'ai noté un fait qui nous oblige à réviser notre point de vue habituel, hein, sur l'école puis la transmission du savoir. C'est chez ce jeune écolier, pendant toute cette période, il n'y a aucun intérêt particulier pour les textes sacrés hindous et encore moins pour ceux d'autres traditions, notamment le christianisme qu'il va découvrir un peu plus tard. Or, plus tard, le Maharshi fera montre d'une connaissance sans faille, extraordinaire, des moindres nuances et des différents aspects des doctrines, non seulement de son propre pays, mais aussi de la Bible et même du Coran. Puis il y a une mémoire prodigieuse, extraordinaire mémoire. Mais ça n'est pas une explication suffisante, puisque personne n'a jamais vu Ramana vraiment plonger dans la lecture des Upanishads, du Vedanta et du Nouveau Testament. Il va dire d'ailleurs, des années plus tard, à un ancien camarade d'école venu le rejoindre dans cet ashram qu'il va fonder, « Vous, au moins, vous saviez le sanskrit quand vous avez quitté la maison, mais moi, quand je suis parti à 17 ans, je ne savais rien du tout. » Il ne savait rien du tout, mais grâce à Dieu, je crois bien, Dieu nous aime tous. Eh bien, grâce à Dieu, il est parvenu à un grand sens de la présence de Dieu, une grande tendresse, et il a été une lumière pour son temps. Nous allons maintenant écouter de la musique du sud de l'Inde. C'est l'art de la vina. En 1896, le jeudi 16 juillet, que Venkatraman, qui a 17 ans, survit, on peut dire, l'événement central de sa vie. C'est dans la maison de son oncle à Madurai, dans cette ville importante du sud de l'Inde, là, où il a été adopté. Sans préparation spécifique, très soudainement, comme ça arrive, hein, c'est plutôt rare, mais ça arrive ici. J'ai connu, moi, des bénédictins qui sont entrés comme ça sur un coup de foudre. Ils étaient en voiture vers 1930, près de Saint-Benoît-du-Lac, qui n'était que quelques ensembles de maisons de bois. Il y a des jeunes gens de 19, 20, 21 ans. Laissaient là leur voiture à des amis, disaient, « Ben, prends le volant, retourne à Montréal, moi j'entre. » Il y en a qui sont entrés là-dedans, comme ça, Saint-Benoît-du-Lac. Bon, j'en ai connu aussitôt même, dont Robert aussitôt, qui est entré soudainement comme ça, pouf, d'un seul coup. Ils sont devenus des moines, des prêtres. Bien, c'est comme ça, lui. D'un seul coup. Et ce jeune hindou va réaliser cette délivrance que les textes décrivent, hein, dans l'hindouisme aussi bien que dans le catholicisme. La délivrance est ce que nous venons de célébrer ces jours-ci. Ceux qui adhèrent au Christ avec amour, ceux qui prennent ses paroles au sérieux, ceux qui entendent ce qu'il dit, vivent. Ceux qui font simplement les écouter puis tourner la page ne vivent pas et ne sont pas heureux. Oh, faut pas les juger. C'est une expérience fulgurante qui survient dans l'âme de Ramana Maharshi. C'est une dissolution soudaine, on pourrait dire, du moi, qui se trouve immergée, comme on dit, dans le langage hindou, dans le soi. Le soi avec un S majuscule, c'est-à-dire en Dieu. Bien plus tard, celui qui est devenu Bhagavan Ramana Maharshi a raconté ce moment central de sa vie. C'est un très beau texte qui nous permet de comprendre, avec d'autres mots, ce qui se passe dans le cœur de nos carmélites aux besoins en plein centre de Montréal, près du métro Laurier. Écoutez bien ça. Environ 6 semaines avant mon départ définitif de Madurai, il s'est produit dans ma vie un grand changement. Ce changement fut soudain. J'étais seul, dans une des pièces du premier étage, dans la maison de mon oncle. Je n'avais été malade que rarement, et ce jour-là, ma santé était excellente. Mais je fus pris soudain d'une violente peur de la mort. Rien dans mon état ne la justifiait, et je n'essayais pas d'en découvrir la raison, je me contentais de l'éprouver. Je me disais, je vais mourir. Et je me demandais quoi faire. Il n'est pas venu à l'esprit de consulter un médecin ou l'un de mes amis. Je sentais tout simplement qu'il me fallait résoudre moi-même le problème, là, sur le champ. Et le choc causé par la peur de la mort forçait mes pensées à l'observation intérieure. Et je me répétais mentalement, sans réellement formuler des paroles, « Maintenant que la mort est là, que signifie-t-elle? Qu'est-ce que c'est que mourir? C'est ce corps-là qui meurt. » Et aussitôt, je dramatisais le fait de la mort. J'étais couché, les membres raides, comme si j'étais mort réellement. Alors j'imitais la situation d'un cadavre pour donner à mon enquête une réalité plus grande. Je retenais ma respiration et je serrais les lèvres pour qu'aucun son ne pût s'en échapper, pour m'empêcher de prononcer le mot « je » ou tout autre mot. « Bon, me disais-je, ce corps est mort. On l'emportera complètement rigide au lieu de sa sépulture. » Où on le brûlera, selon la coutume hindoue, vous connaissez, où on le brûlera et le réduira en cendres. Mais suis-je mort par cette mort de mon corps? Mon corps est-il moi? Je pose des questions intelligentes à 17 ans. Il y a bien raison, mais les enfants se posent ces questions-là chez nous aussi, je pense bien. Mon corps est-il moi? Il ajoute, il est silencieux et inerte. Mais je sens la pleine force de ma personnalité et j'entends même la voix du soi, c'est-à-dire de Dieu, au fond de mon être. Je suis donc un esprit qui transcende le corps. Le corps meurt, mais l'esprit, transcendant le corps, ne peut être touché par la mort, ce qui veut dire que je suis un esprit immortel. Quelle belle prise de conscience chez ce jeune garçon de 17 ans. Si vous avez 17 ans et que vous m'entendez, dites-vous bien ça. Vous êtes un esprit immortel. Dieu vous appelle à toutes sortes de belles choses sur cette terre. Je continue le texte de Ramana Maharshi, qui raconte donc ce qui lui est arrivé quand il avait 17 ans. Ses pensées n'étaient pas obscures et ternes, elles jaillissaient en moi, telles d'éclatantes vérités, que je percevais directement, sans que mes activités cérébrales soient en jeu. Le soi, Dieu, je le rappelle, était donc quelque chose de très réel. La seule chose réelle dans mon état présent, mais toute l'activité consciente de mon corps se concentrait sur ce soi. Depuis cet instant, la puissance fascinante de ce soi se plaça au cœur même de toute mon attention. La crainte de la mort avait disparu et pour toujours. L'absorption dans le soi se poursuivit sans interruption. D'autres pensées passaient et disparaissaient, pareilles à diverses notes de musique, mais le soi demeurait comme la note scruti. Oh, qu'est-ce que ça veut dire, la note scruti? Vous savez, quand on écoute de la musique hindoue ou indienne, là, c'est une espèce de note monotone qui est persistante, qu'on entend dans les morceaux de musique comme ça. On pourrait dire que c'est semblable au fil auquel sont enfilées des perles, ça représente le soi, qui persiste au travers de toutes les formes de l'être. C'est intéressant, cette note de musique qu'on entend des fois, on trouve ça curieux. Ça s'appelle la note scruti, S-C-R-U-T-I. Hein? Alors, il dit donc, je répète, d'autres pensées passaient et disparaissaient, pareil à diverses notes de musique, mais le soi demeurait, comme la note scruti, sous-jacente à toutes les autres notes et se confondant avec elles. Que mon corps fut occupé à parler, à lire ou à quoi que ce soit d'autre, écoutez bien, tout mon être n'en était pas moins centré sur le soi. Que c'est beau, hein? Comme les moines, les moniales, bien des chrétiens dans le monde de plus en plus qui sont centrés sur Dieu qui les habite et qui sont en Dieu. Vous savez, Dieu nous habite, mais nous habitons Dieu, finalement. Nous sommes inséparables de lui. Quelle douceur que nous donne la foi. Quelle douceur, quelle douceur. Alors, il ajoute, « Avant cette crise, je ne le distinguais pas clairement et je n'étais pas attiré consciemment vers lui. Je ne ressentais pour lui nul intérêt direct ou perceptible, encore moins inclinais-je à demeurer constamment en lui. » Et oui, il faut prendre conscience de la présence de Dieu. Je vous ai fait des émissions là-dessus pour essayer de vous donner, puis de me donner à moi-même, hein, en même temps, ce sens de la présence de Dieu. Alors, tout se passe alors très vite dans l'existence de Ramana Maharshi, parce que son existence antérieure devient difficile et bientôt impossible. Son entourage se rend bien compte confusément qu'un changement est survenu. Puis, quelques semaines plus tard, celui qui est encore Vekataraman, irrésistiblement attiré par la solitude, bien, il quitte sa famille. Puis, il laisse un message. C'est un beau message de 3 lignes. « Je suis à la recherche de mon Père, selon l'ordre qu'il m'a donné. » Voyez-vous, il appelle Dieu mon Père. C'est beau, hein? « C'est une entreprise vertueuse que j'entreprends. Ne vous attristez donc pas et ne dépensez pas d'argent en recherches inutiles. » Alors, il a entendu parler d'une montagne sacrée, Arunachala, qui est considérée dans toute l'Inde comme la manifestation terrestre de Shiva. Hein? Shiva, c'est une manifestation de Dieu qui est très belle. Je pourrais vous en parler, mais je passe. Il faut aller plus vite que ça. Hein? Alors, il sait aussi que c'est là qu'il doit se rendre. Avec 3 roupies obtenues de son frère, sous le prétexte, petit mensonge, de s'inscrire à un cours d'électricité, il prend un billet à la place, un billet de chemin de fer, Puttindivanam, la station la plus proche de Tiruvannamalai, sur la ligne qui, de Madurai, joint Madras et Tiruchirappalli. Alors, il arrive le 1er septembre 1896. Encore jeune, comme vous voyez. Au petit matin. Là, le temple est grand ouvert, il n'y a personne, puis au-dessus de ces grands murs d'enceinte flanqués de 4 immenses tours pyramidales qui dominent autant de portes d'entrée qui sont construites en pierre, là, il apparaît un enchevêtrement de cailloux, de rochers qui brillent au soleil levant, puis des petits arbustes. C'est la montagne de l'éveil, c'est Arunachala, et ainsi se termine la première partie de son existence. Ainsi commence aussi la seconde période, qui va s'étendre jusqu'en 1922, soit un peu plus d'un quart de siècle, tout entière passée dans le temple, dans ses environs immédiats et sur le mont de Shiva. C'est d'abord l'accomplissement de quelques gestes rituels auxquels la population locale est bien habituée, mais qui n'en revêt pas moins, on pourrait dire, une certaine solennité naturelle. Ramana se fait raser les cheveux. Il jette dans l'étal la menue monnaie qui lui reste après avoir payé son billet de train. Il se débarrasse de tout ce qui pourrait rappeler à ceux qu'il rencontre sa caste familiale de brahmane. Je m'inspire, je le répète, pour ceux qui pourraient être blessés que je puisse parler d'un hindou dans une émission, surtout durant la semaine de Pâques. Vous savez, il faut avoir le cœur ouvert quand même et se rendre compte que l'Esprit Saint agit dans le cœur de gens qui n'ont pas eu la chance, comme nous, de connaître Jésus-Christ. Pour les aimer, Le Concile Vatican II nous l'a bien enseigné. Et de toute façon, Dieu aime tous les hommes, toutes les femmes. Je m'inspire donc d'un livre publié par les Dominicains de Paris aux éditions du Cerf, dans la collection Témoins spirituels d'aujourd'hui, intitulé « Présence » de Ramana Maharshi, publié il y a près de 20 ans, et écrit par Henri Hartung. Il arrive au renoncement absolu, Ramana Maharshi. Un renoncement absolu qui le coupe en quelque sorte de son passé. Seul, immensément seul, il s'absorbe dans le silence, dans l'immobilité. Et successivement, des hommes et des femmes qui sont frappés par l'aspect de ce tout jeune homme, qui vit dans cette méditation permanente, qui est indifférent à tout ce qui l'entoure, mais il lui apporte un peu de nourriture. Il le protège, d'abord de la curiosité des gens, puis de leur dévotion, qui devient vite gênante. C'est que déjà émane de cet adolescent une béatitude et une paix que ses visiteurs ressentent d'une façon intense. On peut retenir de ces années deux événements qui en illustrent bien la signification. En premier lieu, c'est la rencontre avec sa famille, qui avait fini par le retrouver. Ils ont entendu parler, par des voyageurs qui sont venus de Tiruvannamalai, d'un très jeune ermite qui ne parle pas. Alors la mère et les frères de Ramana se demandent s'il ne s'agissait pas de Venkataraman, le Ramana Maharshi, quoi. Alors ils font le voyage. Ils le reconnaissent, malgré sa nouvelle apparence, puis ils lui demandent de revenir parmi eux. Et sa mère alors le supplie, au moins de lui répondre d'un mot. Puis un spectateur de cette scène lui tend un morceau de papier puis un crayon. Oh, ça me rappelle des souvenirs. Il écrit: ce qui est destiné à ne pas se produire ne se produira pas, quelques efforts que vous fassiez. Ce qui est destiné à se produire se produit, quelques efforts que vous fassiez pour l'empêcher. La meilleure partie est donc celui du silence. C'est presque dur, hein? Il ne répond que sur une feuille de papier. Son silence, il ne l'enfreint pas. Peut-être est-ce à un moment du jour où il avait... s'était engagé devant Dieu à ne pas enfreindre le silence, un peu comme dans les monastères, on n'enfreint pas du tout le silence pendant ce qu'on appelle le grand silence de nuit. Je me souviens qu'au monastère, mes parents partaient tôt le matin pendant le silence de nuit. Le prieur m'a dit que je pouvais aller les saluer, mais il ne m'a pas dit que je pouvais leur parler, alors je les ai embrassés sans leur parler. Chose curieuse, ça a presque converti mon père. De voir que j'observais la règle à ce point-là. Comme quoi, quand on a 19 ans, on est tout entier. Lui en avait 17. Alors après un nouveau séjour, quelques mois plus tard, sa mère, à Lagamal, traverse des années douloureuses avec la mort de deux de ses fils imaginés. Des moments difficiles, il y a la vente de la maison de Tiruchuti, qui lui permet, seule, de régler de grandes dettes. Mais elle attend 1916. Son fils va avoir alors 36 ans. Pour se décider à venir s'installer auprès de lui, elle ne le quittera plus jusqu'à sa mort en 1922. Elle va passer 6 ans près de lui. Elle est enterrée d'ailleurs au pied de la montagne sacrée. C'est autour de son tombeau que les fidèles de son fils vont construire les premières maisons de ce qui va devenir l'ashram. Un ashram très important sur le plan de la qualité. Et Ramana Maharshi s'installe, si on peut dire qu'il s'installe, puisqu'il n'a aucun bien, mais il s'installe dans deux grottes naturelles qui se trouvent sur le versant oriental de l'Aranachala, la montagne. Il habite successivement Virupashna, du nom d'un saint homme qui y a vécu longtemps, hein. Et puis l'autre, Skandashram. Vous voyez le mot ashram, monastère, centre, quoi. Alors un frère de Ramana, qui est devenu moine avec lui, s'établit à son tour près de lui. Il se joint à une communauté de fidèles qui demeure sur place, et chacun maintenant dans la région sait qu'un sage, Ramana Maharshi, a réalisé en lui ce qu'on appelle l'ultime délivrance. C'est ce qui arrive, vous savez, quand on écoute la radio Ville-Marie à 1h le dimanche après-midi, du tunnel à la lumière, on voit des gens qui nous parlent de l'ultime délivrance, au fond, hein, et plusieurs autres convertis qu'on entend sur les ondes de radio Ville-Marie. C'est très touchant, tout ça. Et quand je vous raconte la vie des saints, vous voyez des gens qui ont atteint l'ultime délivrance. Et là, on voit que Ramana Maharshi vit dans une grotte de la grande montagne voisine, là. Et nombreux sont ceux qui parcourent quelques kilomètres, généralement en famille, pour voir ce saint homme. Comme des gens vont aller peut-être à Oka pour voir Don Vanier, je ne veux pas le gêner, et le fils de Georges Vanier, n'est-ce pas, qui est trappiste, là, ce grand moine, ou ceux qui allaient voir d'autres moines ici au Québec, ou des moniales qui sont réputés. Vous savez qu'il y en a à Sainte-Marie-des-Deux-Montagnes, puis ailleurs, hein. Alors, c'est le darshana, c'est une vision de celui qui sait. Vision de celui qui sait. Voir au-delà des apparences. Hein, à laquelle les hindous confèrent une puissance de transformation de la personne. Quand quelqu'un voit au-delà des apparences, hein, ça transforme. Ils le comprennent, les hindous, et nous aussi, d'ailleurs. Et dès l'année 1911, un Anglais, M. Humphreys, c'est le premier Européen à rencontrer le Maharshi, Ramana Maharshi. Celui-ci a toujours déclaré que l'acceptation de se prêter à cette espèce de darshan, c'est-à-dire cette vision qu'il permet aux autres de jeter sur lui, c'est pour lui une véritable obligation. Ce qui permet de parler, en ce qui le concerne, d'un témoignage de la réalité de l'esprit avec un E majuscule, c'est l'Esprit Saint, quoi. Il est celui qui témoigne. Il témoigne, il ne se gêne pas. Son regard témoigne. La fonction spirituelle de l'acte de présence a trouvé chez Maharshi une expression la plus rigoureuse. Ramana Maharshi était comme l'incarnation à la fin des temps et en face de l'activisme moderne, de ce que l'Inde a de primordial et d'incorruptible. Mais il ne faut pas voir tout ça si beau, l'Inde. Vous savez que quand on y va, on peut être très, très, très déçu parce qu'il y a beaucoup d'abus. Beaucoup de gens qui ne vivent pas la vie spirituelle véritable se contentent de participer à des processions, à toutes sortes de choses, un peu comme nous, quoi. Nous ne sommes pas de bien bons catholiques. Hein. Mais on essaie. Et on dit que Ramana Maharshi a manifesté la noblesse du non-agir contemplatif en face d'une morale de l'agitation utilitaire. Hein. Comme nous ici. Hein. Il a montré, dit-on, l'implacable beauté de la vérité pure en face des passions, des faiblesses et des trahisons. C'est en partie pour faciliter ces rencontres rendues difficiles, hein, par l'endroit où il vivait, dans les grottes, là, qu'il décide, en 1922, de quitter ce versant difficile d'accès pour s'établir définitivement à quelques kilomètres de Dhiruvannamalai, dans la direction du couchant, là. Et c'est là qu'il quittera son corps physique, selon l'expression hindoue. 28 ans plus tard, en 1950, le 14 avril. Ce changement, ce déménagement qui va s'opérer en 1922 jusqu'en 1950, qui ne porte en fait que sur quelques centaines de mètres, c'est encore moins marqué dans le comportement de Ramana, qui continue tout simplement, invariablement, jour après jour, à mener la même existence. Le nombre de visiteurs augmente régulièrement. La présence du sage est dorénavant connue dans la région, puis dans l'ensemble du pays, et enfin en Europe, aux États-Unis, au Canada. Rien dans le déroulement quotidien n'est changé pour autant. Hein, pourquoi l'homme qui a atteint la sérénité, qui a, comme on dit là-bas, vu Dieu, qui est immergé dans la béatitude et la joie d'une réalité intérieure parfaite, pourquoi modifierait-il quoi que ce soit de lui-même à la suite d'un déménagement ou d'événements extérieurs? Alors, tantôt, en quelques mots écrits par lui-même, tantôt par des réponses à des questions posées, tantôt en partageant quelques tâches ménagères, oui, même ça, notamment la cuisine, le plus souvent silence, mais se développe ainsi, chez lui, une véritable transmission, une transmission subtile d'une réalité spirituelle exceptionnelle. Parce que Ramana est le témoin de Dieu. Jusqu'à son dernier jour, il prend en sorte que ses visiteurs venus de la ville voisine ou d'une contrée lointaine arrivé à pied et sans argent, ou même dans des automobiles plutôt luxueuses, que ce soit des serviteurs ou des premiers ministres, mais qu'il fait en sorte qu'il puisse l'apercevoir, éventuellement lui parler, s'incliner en tout cas, non devant ce qu'il appelait lui-même ce soliveau de corps, hein, c'est... mais face à l'incarnation vivante de la réalité divine qui est en chaque être humain, mais qu'il avait, lui, retrouvé. Quand vous assistez à la messe, puis vous voyez le turiféraire. Turiféraire, ça vous semble un mot peut-être compliqué, les jeunes, c'est celui qui tient un encensoir, et puis à un moment donné, vous le verrez peut-être, il va encenser le prêtre. Vous dites, hé, qu'est-ce qu'il fait là? Il encense pas le prêtre, monsieur un tel, il encense celui qui s'apprête, comme le Christ l'a fait la veille de sa mort, à prononcer des paroles miraculeuses, « Ceci est mon corps !» Et il va faire ce miracle extraordinaire de transformer du pain au corps vivant, ressuscité, glorieux de Jésus, qui va garder les apparences du pain. Et il fait de même avec le vin qui devient le sang, l'âme toute vibrante de Jésus. Alors lui, il accepte, Ramana Maharshi, ses inclinations, mais c'est que ça s'adresse à Dieu. Il est là, sans jamais manifester une ambition quelconque. Il est humble. Il n'a pas une parcelle d'amour propre chez cet homme. Il n'a pas ceci ou cela. Il est. Il y a un sourire, pour voir les photos, c'est superbe. Un sourire d'amour et de pacification. Il est un regard, je dirais. Un regard qui témoigne de la vérité intérieure. Oh, dans une époque dans laquelle nous vivons aujourd'hui de cette agitation extérieure. Son regard témoigne du silence dans le bruit puis la fureur. Son regard témoigne de la paix au milieu des désastres et des atrocités de tant et tant de guerres, puis ils en ont eu là-bas, hein, en Inde. Il témoigne de l'esprit vivant devant tant d'intelligence morte. Que nous ne servons pas assez de notre intelligence et de notre cœur pour vivre. On voit ça bien des fois, de saints prêtres âgés. Oui, des prêtres âgés, des prêtres séculiers. On voit ça aussi chez des frères convers, surtout, on dirait, dans les monastères. On appelait ça des frères convers autrefois. On n'appelle plus ça convers maintenant, ce mot est changé. On voit ça aussi chez des gens dans le monde qui s'avancent pour recevoir la communion. Quand on a la chance de donner la communion, quel privilège, ça ne m'est plus donné maintenant, mais c'est extraordinaire. Ah, il y a un regard tout à coup. Les années passent. Et Ramana Maharshi n'avait pas encore 70 ans, mais il paraissait plus âgé. Donc il semblait accablé de soucis. On n'en distinguait pas le moindre signe chez lui. Il avait simplement l'air âgé, l'air frêle. Et comme certains sages dont la destinée est attestée par toutes les traditions, hindoues ou chrétiennes, et particulièrement la nôtre catholique, parce que la plupart de mes auditeurs sont catholiques, hein, il semble que Ramana Maharshi, par sa fonction, même de présence au sein d'un monde décentré puis disloqué, mais il assumait, jusque dans son propre corps, une partie des maux de l'humanité. Il y a des musulmans qui disent que certains spirituels prennent sur eux le dixième des malheurs de l'humanité. Ben, est-ce que ce n'est pas significatif de noter que l'un des plus grands d'entre eux, des grands sages hindous de notre siècle, a été finalement atteint du mal peut-être le plus caractéristique de notre époque, le cancer. C'est apparu en février 49, au coude de son bras gauche, une grosse douloureuse, là, qui est vite analysée comme fort menaçante pour sa santé, mais autant l'entourage de Ramana Maharshi s'inquiète, autant lui-même, malgré des souffrances que les médecins consultés imaginent très très grandes, lui, il ne donne apparemment aucun signe de contrariété, puis écoutez bien ce qu'il dit, « Ils prennent ce corps pour moi, et m'attribuent à moi les souffrances de ce corps, quelle pitié, comme quoi il était bien détaché de son corps. Hein. » Ramana Maharshi, pendant les derniers mois de son existence terrestre dans le sud de l'Inde, là, La maladie, lui, est une occasion pour d'enseigner, quoi. Il est extraordinaire. Il montre par son attitude qu'il est bien plus important de se connaître soi-même que de se crisper, là, dans un attachement absolument inutile, au fond, à son corps. Mieux vaut, comme font les grands saints chrétiens, comme font souvent ici des mères de famille, des pères de famille. Moi, j'ai vu mon père se convertir avant de mourir, puis il est mort comme ça. Il me disait quelques heures avant de mourir, « Oh, demande-lui donc à ta Sainte Vierge qu'elle vienne me chercher. Je suis prêt. » Avec une grande douceur, lui qui avait quitté l'Église à 16-17 ans, pour ainsi dire, il n'avait pratiqué que, oh mon Dieu, du bout des doigts. Mais il était bon. Et il meurt comme ça, dans la grâce de Dieu, ces gens âgés. C'est beau à voir, ma mère est morte comme ça aussi. Oh, que j'espère mourir comme ça. Oui. Et depuis, Ramana Maharshi indique à plusieurs reprises que ce corps n'est pas le Maharshi, mais que ce dernier, le Maharshi, en tant qu'il est esprit, il va demeurer auprès de ceux qui déjà s'inquiètent à l'idée d'être abandonnés par lui. Il dit, ils sont abattus parce qu'ils croient que je vais les quitter et m'en aller. Mais où irai-je? Et comment m'en irai-je? Tant que cela lui est physiquement possible, il continue non seulement à donner sa bénédiction silencieuse à tous les visiteurs, mais aussi à accomplir les rites de la vie quotidienne. Puis, quand il ne peut plus marcher, bien, il reste étendu sur un divan dans une petite chambre que les membres de l'ashram ont construite pour lui. Et c'est par centaines, par milliers que les fidèles défilent devant lui, pressentant que la fin approche. Et malgré tout, ce qu'ils peuvent se dire entre eux pour se réconforter, en citant d'ailleurs ses propres paroles sur le fait qu'il ne les quittera jamais, il redoute le moment de sa disparition physique. Le corps est pareil à une feuille de bananier, disait-il, sur laquelle on a servi toutes sortes de mets délicieux. Après avoir mangé les friandises, allons-nous conserver la feuille? Ne la jetterons-nous pas, à présent qu'elle a rempli sa moisson? Et alors, le 14 avril 1950, c'est l'anniversaire ces jours-ci, Ramana Maharshi s'adresse à tous ceux qui, parfois depuis des années, quelques-uns depuis l'installation de l'ashram l'ont entouré, vivant à ses côtés, le rite d'une existence centrée sur l'essentiel, par sa seule présence. On disait, les Anglais ont le mot « thanks » pour exprimer ce que je veux dire. Nous ne savons que dire « santosham ». Je suis content. Comme l'un de ses proches, devant son état d'épuisement, impose à la foule de ne plus défiler devant lui, eh bien, Ramana Maharshi le reprend doucement et lui demande de n'en rien faire parce que jusqu'au bout, jusqu'au dernier moment, il est disposé à être présent pour tous ceux qui viennent le voir. Son humilité est immense dans cette obéissance aux événements. Car il sait que c'est Dieu qu'on vient honorer. La nuit tombe et soudain, dans une ambiance presque irréelle de silence, de chagrin, de paix, un groupe de fidèles se met à chanter un hymne composé par le Maharshi à la gloire de la montagne sacrée Arunachala. Les sons arrivent jusqu'à lui. Il a un sourire ineffable, un soupir profond, et tout à coup la respiration s'arrête. Tout simplement, il ne reprend plus. Hein? Et il dit ses dernières paroles, « Je ne m'en vais pas. Où donc irai-je ?» De l'autre côté d'un chemin qui mène à l'entrée de l'ashram, au pied de la montagne, un temple de modeste proportion, dont l'extrémité est marquée par un étang qui se trouve être une grande citerne carrée. Elle est cernée de chaque côté par des escaliers de pierre sur lesquels gambadent quelques singes. Et au centre de cet ensemble, il y a un monument qui porte la marque architecturale de l'Inde du Sud. Là. Vous savez qu'il y a beaucoup de catholiques dans l'Inde du Sud. Et ça indique ça le lieu où repose la mère du Maharshi, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Puis, juste à côté, il y a une très grande salle, à l'une des extrémités de laquelle se trouve le tombeau de ce grand sage qu'a été Ramana Maharshi. Entouré par quatre colonnes soutenant une sorte de dais, il a la forme d'un Shiva Linga, c'est-à-dire de l'un des symboles de la tradition hindoue. La base est cachée dans un socle, c'est la matière, le corps. La partie médiane est octogonale, c'est le mental, l'âme. Puis l'élément supérieur est cylindrique, c'est l'indifférencié, l'esprit. Ils ont beaucoup de symboliques comme ça, et nous, nous en avons aussi, mais nous ne les connaissons pas. Comme nous ne connaissons pas nos symboles. Ah, mon Dieu! J'ai bien aimé l'abbé Normand Lamoureux qui nous bénissait avec de l'eau bénite au grand séminaire et qui nous envoyait vraiment de l'eau bénite et qui a murmuré un moment doucement avec le sourire aux lèvres « Oui, je sais, mon eau est froide, mais c'est bien normal. Et de toute façon, c'est un signe. Il faut bien qu'il soit signifiant. » Il avait bien raison. Nos signes, on ne les comprend plus. C'est presque d'une tristesse effroyable. Il est vrai que la vision de la sagesse n'est pas toujours immédiate. Le père Henri Le Sceau, compagnon du père Montchanin, disait « Je regardais intensément ce vieillard, un septuagénaire au visage très doux, aux yeux très beaux, mais quoi au-delà? Ah, son teint était clair, comme l'est toujours celui des brahmanes du sud, d'un bronze doré. Son corps était nu, comme il convient aux vrais renonçants, à l'exception d'une étroite bande de coton dans l'entrejambe, appelé Kopinam. Assis sur son divan, il lisait un livre ou un journal, et au milieu de cette liturgie, de ces prosternations, de cet encens, de cette foule assise en silence et les yeux fixés sur lui, l'homme paraissait si naturel, si commun, comme un bon grand-père plein de finesse et de sérénité, qui me rappelait mon propre grand-père. Je ne comprenais pas, et avant même que ma pensée n'ait pu le reconnaître, ni surtout l'exprimer, l'auréole intime de ce sage avait été perçue par quelque chose en moi, au plus profond de moi-même. C'est un bénédictin qui parle. Des harmonies s'éveillaient dans mon cœur, un chant se laissait deviner, et surtout une basse qui enveloppait tout. Et dans ce sage d'Arunachala, et de ce temps, c'était le sage unique de l'Inde éternelle qui m'apparaissait, c'était la lignée jamais interrompue de ces sages, de ces renonçants, de ses voyants. C'était comme l'âme même de l'Inde qui perçait jusqu'au plus intime de mon âme à moi et entrait avec elle en communion mystérieuse. C'était un appel qui déchirait tout, qui fendait tout, qui ouvrait tout d'un grand abîme. Ah, je pourrais vous parler aussi du père Montchanin, qui l'a beaucoup apprécié, puis de Louis Massignon, qui a dit des choses admirables, et puis, oh là 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 là, de Jacques Maritain. Mais on ne peut pas tout dire. Il vaudrait mieux rejeter tout notre fardeau sur le Seigneur. Il le portera, et vous en serez délivré. Il saura bien prendre sa part de travail, disait-il. Ce qui compte, c'est de ne jamais abandonner l'essentiel en soi, de n'agir qu'en harmonie avec lui, mieux encore de se montrer si ouvert à cette énergie spirituelle subtile qu'elle puisse guider vos pas et inspirer vos paroles. Que de choses, on pourrait dire. Ah, mon Dieu! Je pourrais vous parler du pape, des saints, de saint François d'Assise en parlant de lui. C'était un grand saint, mais un saint que l'Esprit-Saint a fait surgir en dehors du christianisme pour nous rappeler que Dieu aime tous les hommes sincères et vrais. On peut vénérer ces hommes admirables en dehors de l'Église, mais nous savons, nous, chrétiens catholiques surtout, que le Christ est ressuscité, qu'il est vraiment le Verbe de Dieu, celui que nous aimons vraiment du fond de notre cœur, en aimant Dieu lui-même, lui, le Fils éternel de Dieu, seconde personne de la Trinité, qui nous fait vivre,